Mais d'abord, on va aller rejoindre le président directeur général de l'INES. Alors, l'INES, ça veut dire l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui vient de produire un rapport qui conclut que, honnêtement, là, les hôpitaux en dehors du Grand Montréal, ça pourrait se remplir plus vite qu'on le pense. Docteur Boileau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Drainville.
Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire, Luc Boileau, qu'effectivement, nos hôpitaux en dehors de la grande région de Montréal sont à risque?
Ben, écoutez, on sort des rapports à toutes les semaines pour essayer d'anticiper sur à peu près les 3 à 4 prochaines semaines comment va évoluer les taux d'hospitalisation, les hospitalisations selon des regroupements régionaux. C'est très difficile de le faire par région. Les chiffres, même s'ils sont inquiétants aux yeux de plusieurs, sont pas assez gros pour qu'on puisse faire des prédictions par région. Mais enfin, on regarde ça d'une façon agglomérée pour un certain nombre de régions. Et une fois de plus, cette semaine, on voit que la tendance, même si elle est moins accentuée que la semaine passée, vous savez, la semaine passée, si la tendance se maintenait, c'est-à-dire si on maintenait le même taux de transmission qu'on voyait, ben là, on aurait atteint en toute vraisemblance la capacité des hôpitaux dans des régions en dehors de celles du Grand Montréal. Cette semaine, c'est moins pire, mais on peut pas l'exclure. Ça reste une possibilité, mais je vais vous dire que c'est sûr que plus on va s'approcher, plus on va être assez ferme dans nos prédictions. Mais pour l'instant, c'est pas extrêmement alarmant. C'est juste un signal comme quoi la situation n'est pas réglée.
On veut dire une lumière jaune.
Une lumière jaune. Bon. La semaine passée était pas mal rouge en flash, là.
Oui.
Mais cette semaine, c'est jaune. Sauf que la semaine passée, on le disait, écoutez, on regarde ça, nous autres, à 3-4 semaines d'avance, donc c'est un petit peu loin. Mais déjà, il y a vraiment eu une amélioration. Il y a eu moins. On a calculé les patients qui ont été infectés à la COVID dans la dernière semaine. Et il y en a eu moins que la semaine précédente. Donc, à peu près 12% de moins, ce qui est bien. Malheureusement, dans ce groupe-là, s'est infecté la semaine passée, la semaine qui vient de se terminer, ben, à compter de dimanche dernier, là, parce qu'on a les données qui arrivent un petit peu après, ben, la proportion de ceux qui ont plus que 70 ans ou même 80 ans et plus, et le nombre est plus grand, de sorte que même si on diminue globalement le nombre de tout le monde, ben, ceux qui sont vraiment à risque, mettons les 80 ans et plus, là, pour prendre ça comme exemple, on passe de 638 à 739. Donc, il y a une augmentation malgré tout, de ceux qui sont vraiment à risque d'être hospitalisés et d'avoir tout ce que vous savez. Là.
Parlez-nous des régions qui sont particulièrement à risque.
Bien, quand nous autres, on regarde ça dans un grand aggloméré dont on parle des régions en dehors du Grand Montréal, mais il y en a visiblement qui ne sont pas à risque. Là. Je vais vous dire d'emblée ceux qui ne sont pas à risque pour l'instant, là, parce que tout ça peut changer.
Bien sûr.
Il y a l'Abitibi, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, le Nord du Québec. Ça, c'est vraiment pas, pour l'instant, une source d'inquiétude. Mais il n'y a pas de doute que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, c'est une région qui est plus à risque. Même la Mauricie, centre du Québec, Capitale-Nationale des Chaudières-Appalaches, c'est pas exclu. Puis même l'Estrie, là, et l'Outaouais. Alors, donc, je vous en nomme plusieurs, mais toutes celles-là. Puis quand on va plus dans le détail, si vous regardez les données d'aujourd'hui qu'on a, là, les plus récentes, là, sur ceux qui sont hospitalisés pour la COVID, ben du côté du Saguenay, c'est 85% de leur capacité. Du centre du Québec, on est à 70%. Donc, c'est déjà beaucoup. Mais comme on le dit souvent, et le ministre est très clair aussi là-dessus, ce sont les capacités que nous avions planifiées. Mais on peut toujours les monter si l'exigence était là, bien sûr.
Par exemple, en transférant certains patients dans des hôtels, comme on le fait, c'est ça?
Bien, c'est surtout, ben en fait, non, parce que là, on parle vraiment des cas d'hospitalisation qui ont besoin de services hospitaliers. On ne peut pas les mettre dans des hôtels. Donc, c'est en transférant des patients d'abord, comme c'est arrivé un peu dans d'autres centres, parce qu'on sent qu'on est débordé, mais aussi en diminuant les autres activités de l'hôpital, par exemple, de la chirurgie ou des autres types de traitements. Mais ça, c'est pas mieux, hein, parce qu'on a besoin de ces services-là pour ceux qui le nécessitent, ça va de soi. Alors, il faut rester là-dessus assez vigilant. Mais comme je vous dis, on voit qu'il y a une tendance qui veut s'afficher à une amélioration. On va espérer que ce soit vraiment le cas. Mais il faut être très sensible à ces augmentations-là, et particulièrement les éclosions dans ce qu'on appelle les RPA, hein, les résidences pour personnes âgées. Même si dans la première vague, on voyait qu'on en avait, tu sais, c'était 6,3 % de tous nos cas. Ça fait pas gros comme chiffre, là, mais quand ils sont malades, là, ils le sont. Et durant l'été, ça avait baissé à le quart de son état, 1,7 % Et voyez-vous, aujourd'hui, on est à 3,4 % Donc, on le sent qu'il y a des augmentations. Ça, c'est des éclosions. Donc, il faut vraiment être très, très, très prudent sur ces milieux de vie-là.
Je vais vous faire entendre, Dr Boileau, une entrevue que j'ai réalisée il y a quelques jours avec Dr Mathieu Simon. Lui, il est dans la région de Québec, à l'Institut de cardiologie et de pneumologie, qui est oui. un des centres COVID. Et parce que je veux quand même mettre les choses en perspective, et je pense que y a quand même des... comment dire? Il y a quand même des moyens pour s'ajuster d'une région à l'autre, pour que les régions moins affectées viennent en aide à celles qui sont plus affectées. Il m'avait parlé il y a quelques jours de ça, donc de ce système qui a été mis en place pour permettre le transfert de patients d'une région à l'autre. On écoute un extrait de cette entrevue.
Comme là, ça s'appelle le COOL-SI. Il existait dans la région de Montréal parce qu'il y avait des problèmes d'accès aux soins intensifs. Depuis la pandémie, depuis le printemps, on l'a généralisé à tout le Québec. Si bien qu'un médecin qui se retrouve, qui soit à la salle d'urgence ou sur un étage et qui se rend compte qu'il y avait un patient qui a besoin de soins intensifs et qu'il n'y a pas de ressources locales dans son hôpital, bien, il va appeler ce numéro-là. Il va être mis en communication avec un coordonnateur qui va le référer à un médecin intensiviste qui va, donner des conseils aux médecins là-bas et effectivement juger vers quelle unité de soins intensifs le patient a besoin d'être dirigé. Puis ça, c'est une très, très belle initiative du ministère.
Dans le fond, moi, j'ai découvert à travers cette entrevue-là, Dr Boileau, que les régions, si jamais ça déborde dans une région, il y a une espèce de système centralisé où tu peux lancer un appel à l'aide. Et là, des responsables de soins intensifs d'un autre hôpital dans une autre région peuvent te dire, ben envoie-moi-le. Moi, j'ai de l'espace, je suis capable de le prendre. Ça pourrait être une façon d'ajuster, mettons, des situations où les lits sont pleins et dans une autre région, il y a des lits de disponibles et on égalise, si on peut dire, en transférant des patients.
Tout à fait. C'est quelque chose qui n'était pas parfaitement en place au point de départ, même s'il y avait des travaux qui se passaient comme ça déjà dans la première vague, parce qu'on sentait que c'était, vous vous souvenez, à Montréal, là, puis Montréal et la grande région de Montréal, c'est là où ça chauffait, et on imaginait qu'on pouvait peut-être utiliser d'autres centres un peu plus loin. C'était plus compliqué, mais là, vous avez raison, c'est quelque chose qui a été mis de l'avant. Puis c'est un système d'information aussi qui est disponible pour tous les intervenants concernés au quotidien, et on voit vraiment la répartition, et on est capable d'anticiper aussi ce qui se passe. D'ailleurs, les travaux de l'INES que nous faisons toutes les semaines à la demande du ministre sont là pour anticiper ce qui va se passer et faire en sorte que tous les gens responsables de ces systèmes hospitaliers soient bien avisés que on s'en va vers un risque ou on s'en va vers une amélioration. Alors, c'est pas parfait, mais ça donne un signal et ça met sous tension des systèmes qui le sont déjà, là, vous me direz, c'est vrai, mais qui le mettent d'une façon encore plus exercée. Comme mon collègue le dit, Dr Simon, c'est clair que il y a ces mécanismes-là qui existent et qui n'ont pas été beaucoup expérimentés, mais qui pourraient l'être dans des situations de débordement, comme celle qui pourrait arriver dans certaines régions, là, vous l'entendez, non pas parce que ils travaillent mal, c'est parce que ce sont des gens qui ont des limites au niveau de leur capacité hospitalière, puis qui ne peuvent pas non plus s'empêcher de traiter tout le monde pour des autres raisons là, qui arrivent, là, des infarctus, des problèmes de cancer, etc. Sûr, alors, ce système-là de vase communicant, il est déjà en place et il permet cette régulation que vous situez. Mais bien sûr, le plus important, c'est de continuer à être, de passer les messages de prudence et de vraiment s'affairer à respecter les règles du jeu, incluant pour la période de Noël qui s'en vient, mais aussi pour les périodes d'ici ce temps-là. Parce que tout le monde veut bien sauver Noël, mais il faut sauver le reste aussi. Là. C'est bien important.
Dr Luc Boileau, PDG de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES. Merci, bonne chance.
Merci et bonne journée. Au revoir.
Luc Lavoie.
Oui, Bernard.
Bon, moi, dans tout ce qu'il m'a dit, le Dr Boileau, là, le bout qui m'inquiète un peu plus, là, c'est l'augmentation quand même assez importante du nombre de patients là qui ont plus de 70 ans ou 90 ans. C'est eux qui ont connu la plus forte augmentation au cours de la dernière semaine. Ça, c'est vraiment, c'est la variable qu'il faut surveiller avec beaucoup d'attention.
Oui, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. J'avais pas réalisé ça, que c'est ce qui est en train de se passer. parce que jusqu'à maintenant, on avait moins souffert de surcharge dans les hôpitaux, justement parce que la transmission communautaire faisait que ce n'était plus uniquement les personnes vulnérables qui se retrouvaient à l'hôpital ou qui n'avaient pas besoin, excuse-moi, mais qui n'avaient pas besoin d'aller à l'hôpital. Les gens qui étaient infectés n'avaient pas besoin d'être hospitalisés parce qu'ils ne faisaient pas partie de ce groupe d'âge principalement ou de gens qui ont des conditions médicales un peu plus délicates. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais moi, je m'inquiète beaucoup pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Parce que c'est clair que c'est là que ça fait le plus mal.
Oui. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, eux autres qui ont perdu le contrôle puis n'arrivent pas à le reprendre, là. D'ailleurs, Arruda, Horacio Arruda, est au Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui, là.
Je ne sais pas s'ils ne devront pas songer à des structures temporaires, comme ça a été fait ici même à Montréal, là, à Verdun, tu te souviens, ils ont construit une aile temporaire. Parce que je pense qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, on approche du 100%.
Ah, on était à la semaine passée, quand j'avais fait l'entrevue avec le docteur Simon, là, qu'on a entendu tout à l'heure, ils étaient à un lit d'être plein à pleine capacité, leur lit de soins intensifs. Mais tu sais, dans les régions, Luc, tu vois, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vérifiais là, tout à l'heure, c'est autour de 275 000 personnes. Et si je me rappelle bien, c'est 10 lits en soins intensifs qu'ils avaient à l'hôpital de Chicoutimi. Ils en avaient 8 ou 9 d'occupés. Fait que encore un autre patient aux soins intensifs, là, puis là, ils auraient été obligés d'envoyer du monde à Québec. C'est pour ça qu'on avait été parlé. Alors, tu vois qu'il était vraiment, vraiment à sa limite, là.
Mais il y a une question que je me pose, là, puis j'ai pas la réponse. Je sais pas si tu l'as, mais quand il dit... Bon, tu parlais de ton entrevue avec le médecin la semaine dernière, là. Quand il dit, s'il y a pas de place en soins intensifs, on appelle un numéro centralisé, on dit, envoyez-le à tel endroit.
Oui.
Quand quelqu'un doit aller dans les soins intensifs, ça m'apparaît pas. Comment tu fais pour le déplacer? Je veux dire, quand on t'amène aux soins intensifs, c'est parce que t'es en danger de mort.
Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'avion, mon gars.
Ben oui, mais même ça, Bernard,
Je te dis pas que c'est sans risque, là.
Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même 2-3 heures plus tard que la personne va se retrouver en soins intensifs. Écoute, peut-être que je comprends mal l'affaire, là, mais...
Non, tu comprends bien, Luc. Mais c'est pour ça qu'on veut pas en arriver là, là. Parce que...
On veut pas
en arriver là parce que les transferts sont compliqués, là, c'est sûr.
Ben,
là.
Qu'ils fassent avec des structures mobiles. En tout cas, les pires cas, là, celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean étant le plus évident, là, puis on parle souvent de la Naudière, la Joliette, et puis quelques autres, l'Estrie, ça monte très vite. Il faudrait qu'on songe à ça, là, parce que on veut pas vivre ça. Écoute, l'hiver s'annonce pas mal dur, déjà, là.
Très bien, Luc, on se reparle un petit peu plus tard. En fait, on se reparle
dans un instant
parce que je vais vouloir t'entendre sur le Vendredi fou. Ça va être notre sujet de l'autre côté de la pause. Je vous ai déjà lancé l'appel 98985 Drainville en commercial 985fm.ca. Si vous êtes allé magasiner ce matin, comment ça s'est passé le Vendredi fou? Est-ce que les gens portaient le masque? Est-ce que les gens étaient agglutinés ou est-ce qu'il y avait une bonne distance entre eux? Vous pouvez m'écrire, puis on va peut-être prendre quelques appels. Restez à l'écoute.